C'est là-dessus que notre philosophe national, Bernard-Henri Lévy, a dérapé. C'est sur cette histoire-là, non ?
C'est notamment, effectivement, oui. Mais bon, c'est tout à son honneur, je veux dire, c'est signe d'une grande fraîcheur d'âme, finalement, une certaine naïveté. C'est-à-dire que le fait que des émigrés allemands se retrouvent au Paraguay après la Seconde Guerre mondiale...
C'est vraisemblable.
C'est tout à fait vraisemblable. Ça n'a pas spécialement alerté Bernard-Henri Lévy. Bon,
il y a des très très fortes communautés allemandes dans toute l'Amérique latine qui se sont constituées de réfugiés nazis qui ont fui. Donc,
ils étaient très engagés.
Enfin, on ne sait pas si tu parles de nazis, mais c'est celle de Nueva Königsberg. On ne savait pas si c'était des nazis.
Il existe des communautés allemandes.
Nazis, oui, bien sûr.
Nazis qui sont constituées à ce moment-là, voilà, au Chili, entre autres.
Mais bon, ça n'a pas effectivement interrogé plus que ça Bernard-Henri Lévy. Ces mystérieuses conférences au fond du Paraguay devant un public de néo-kantiens qui voulaient vivre comme Kant, ce qui n'est pas facile en 1946, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il avait reproduit une partie de la ville de Königsberg qui faisait la même promenade rituelle que Emmanuel Kant et qui tout d'un coup se trouve confronté au problème de la reproduction de leur propre communauté puisque Kant étant chaste, être néo-kantien, c'est se priver, si j'ose dire, de faire des petits kantiens. Donc, ils ont entendu parler de Botulle qui avait effectivement lu Kant et médité Kant, et ils lui demandent son aide, finalement. Comment dénouer cette contradiction entre être kantien et vouloir perpétuer une colonie kantienne ?
Alors, avant de mourir en 1947, quelques mois auparavant, il se brouille avec tout le monde. On croit la biographie que vous avez établie.
Oui.
Il se brouille avec Jean-Paul Sartre, avec Joséphine Baker... qu'il n'avait pas rencontré, mais enfin bon, il se brouille avec elle, avec Simone de Beauvoir, avec laquelle il a eu une liaison, avec Gaston Bachelard, avec Maurice Merleau-Ponty, avec Marguerite Duras, avec André Gide, avec André Malraux, avec Rédaker,
avec Yvan Audouard... Avec André Breton, paraît-il.
Ouais, ouais.
Et il se fâche avec tout le monde, ce Botulli. Pourquoi ? Comment vous expliquez ce phénomène ?
Bah, il se brouille d'abord avec lui-même, c'est très simple. C'est toute sa dynamique interne qui s'effondre sur elle-même à cette époque. Et on le voit dans ce mouvement, ça éclabousse du coup ses amis, cet effondrement, et il en résulte cette situation où non seulement il se brouille avec eux, mais en plus ceux qui étaient ses amis l'oublieront.
Ouais.
Et c'est le début de son épopée.
Puis ça fait peut-être partie d'une technique de brouillage justement en ce qui concerne sa vie posthume et sa postérité. Je pense que ça fait partie d'une sorte de stratégie philosophique.
Et là, il se retire dans l'Aude.
Il se retire. Il était paniqué par l'idée d'avoir des disciples. Protégez-moi de mes disciples.
Mais vous considérez comme...
Ah non, comme l'a dit très bien Hervé Le Tellier, nous ne sommes pas les témoins de Botulle.
Mais les disciples et les témoins, c'est pas la même chose.
Non, c'est tout à fait différent. Bon, il faudra peut-être une autre émission, mais...
Au moins une. Je crois qu'il y a un signe très fort. C'est quand même, un peu avant de mourir, il hésite entre l'Aude et les Corbières. Il dit, les Corbières, c'est ici. Il préfère ne pas y aller, il dit je préfère aller dans l'Aude, là. Et ce sont ses derniers mots connus.
Et oui. Il meurt comment ? Alors Bertrand Rothet a déjà évoqué sa fin.
Alors,
Christophe Clair.
Eh bien, c'est une fin un peu tragique et ridicule. Il veut se suicider, il se rate, il se tire une balle dans le pied et il mourra d'une gangrène du pied.
Il y a plusieurs hypothèses.
Oui.
C'est-à-dire que son père était maréchal Ferrand, donc il y avait une enclume dans son atelier, l'atelier de son père, et il a tenté de s'écraser la tête avec une enclume par un astucieux dispositif de poulie. Il faudra revenir au thème de l'enclume qui est extrêmement important dans le botulisme.
Voilà, je crois qu'on a essayé de cerner le personnage, Jean-Baptiste Botulle, le botulisme, et maintenant il vous arrive une aventure tout à fait singulière. C'est que jusque-là, vous étiez en petit comité, assez discret, hein, on n'était pas... Et brusquement, vous voilà célèbre, vous voilà projeté sous les feux de l'actualité. Alors, qu'est-ce que ça change ? Comment vous vivez ça ? C'est que ça met un choc formidable, Frédéric Paget.
Non,
vous êtes cité partout, vous...
Non. Ça ne change rien, nous avons notre voix.
Vous êtes resté simple.
Oui, nous restons simples. Et nous n'y sommes pour rien, parce que, encore une fois, puisque vous parlez, il me semble-t-il, de l'affaire Bernard-Henri Lévy, ce que d'autres ont appelé le Botulgate, dans certains journaux, nous n'avons rien fait, en fait, c'est un non-vouloir, ça c'est très botulien aussi, c'est-à-dire que nous n'avons pas tendu de piège ni à Bernard-Henri Lévy, ni à quiconque, ça a été dit, et d'autre part, nous n'avons pas fait de publicité sur cette affaire. Et là aussi, il y a quelque chose de très botulien, je vous rappelle que le botulisme est médicalement une maladie, c'est BHC lui-même qui était le vecteur du botulisme dans cet aspect. Car partout où il allait, il disait, mais bon, Botulle, effectivement, il devait s'expliquer sur Botulle. La réputation, la renommée de BHL étant mondiale, effectivement, Botulle aujourd'hui est cité mondialement.